vous avez des questions, il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et si vous arrivez, que vous découvrez notre rendez-vous jardin, vous dites qui est Philippe Munier? Eh bien, c'est notre expert qui répond comme chaque dimanche à vos questions sur le jardin, sur les plantes, comment les entretenir. Si vous avez des soucis avec, eh bien, il faut avoir le bon réflexe d'appeler le 02 99 67 35 35. Accueillons Philippe d'ailleurs. Bonjour Philippe.
Bonjour Léo, bonjour à tous.
Heureux de...
Et même si on a des bonnes surprises avec ces plantes, on a le droit d'appeler. Hein.
Ah bah oui.
On ne sait pas que quand on a des problèmes. Hein.
Mais
même
oui.
Quand les surprises sont bonnes, faut le dire aux autres. Ouais.
Faut pas hésiter.
Il y a des trucs super dans mon jardin.
Et puis faut pas hésiter aussi à appeler s'il y a des moments où on se retrouve avec des choses dans le jardin, on ne sait pas quoi en faire. Et ben vous pouvez aussi donner des conseils dans ces cas-là. Ça sert aussi à ça. D'ailleurs, je crois que ça va être la question qui va arriver tout de suite, Philippe.
Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Avec Laurence qui est à Saint-Malo. Bonjour Laurence.
Bonjour à vous.
Alors Laurence, j'ai cru comprendre que vous collectionniez quelque chose. Dites-nous.
Oui, en effet. J'ai des pins dans mon jardin, des pins parasols ou des pins maritimes.
Mmh.
Et je peux aussi récupérer des boules de pin que je trouve un petit peu partout en promenant chez des amis ou dans la nature.
D'accord.
Donc j'en ai beaucoup.
Oui.
J'avais l'habitude de les mettre... au pied de petits arbustes, par exemple. J'avais cru comprendre que c'était bon pour garder l'eau, peut-être. Alors, est-ce que je continue? Est-ce que je les garde en décoration? Ou est-ce que je les détruis? Qu'est-ce que je peux en faire?
Que faire de ces pommes de pin, Philippe?
Oui.
Alors...
Eh ben exactement la même chose que ce que vous faisiez jusqu'à présent. Par contre, il faut bien cibler les arbustes qui seront bénéficiaires, si je puis dire, de cette manne. C'est-à-dire que on sait que la dégradation des conifères va aboutir dans tous les cas à un humus acide. Donc il y a des plantes qui n'aiment pas l'humus acide et il y en a d'autres qui l'adorent. Donc toutes les plantes qui l'adorent, ça tombe bien, c'est toutes les plantes que nous on adore en Bretagne. C'est les rhodos, c'est les camélias, c'est les azalées, c'est les golteries, c'est... voilà, tous les petits conifères de décoration, c'est toutes ces plantes qui font que nos jardins bretons sont très différents de beaucoup de jardins du reste de la France. Et bien justement, c'est toutes ces plantes-là qui adorent les aiguilles de pin, les pommes de pin, les terres de lande. Et donc, vous avez tout à fait raison. D'accord. De récupérer cette manne et d'en faire profiter toutes les plantes dites de terre de bruyère.
Donc je mets ça au pied, autour des pieds en fait.
Absolument, et puis ça va se dégrader lentement, et puis ça va faire de l'humus acide, mais de l'humus justement qui sera très bon pour toutes ces plantes-là.
Voilà.
Pour ce qui est des agapantes également?
Alors les agapantes, moins quand même. Les agapantes, elles préfèrent un bon compost bien gras, c'est des grosses gourmandes. Donc profitez-en pour avoir à côté peut-être de la récupération de pommes de pin, un petit coin, un petit silo à compost pour composter les restes du jardin et les restes de la cuisine. Et là, ce compost-là, il ira au potager et aux agapantes.
Eh ben voilà.
D'accord, donc rhodos, golteries, conifères, c'est super.
Voilà. C'est bien. Vous les gardez.
Camélia beaucoup aussi. Hein.
Camélia aussi.
Camélia.
Ah ouais, d'accord. Oui.
Faut pas hésiter.
Je vais le conseiller à une amie qui en a justement.
Eh ben voilà, vous donnez vos pommes de pin, vous partagez votre collection. Et puis ça peut être bien aussi d'en mettre quelques-unes sur la table à Noël ou en tout cas en décoration.
Aussi,
façon, je partage beaucoup en effet. C'est pas de problème.
Voilà. Sur la table de Noël, avant d'aller après au pied des camélias ou des rhodos.
Voilà, dans
oui,
ce cas-là. Laurence, écoutez, merci à vous pour cette question, ça nous aura permis aussi de donner peut-être des astuces pour les uns et les autres. À très bientôt.
Passez une très belle journée, merci à vous.
Au revoir. Monique est à Châteaubriant. Bonjour Monique.
Bonjour messieurs. Allez. Je suis en peine, j'ai une superbe amaryllis qui a fleuri la première année de deux belles grosses fleurs rouges.
Oui.
Et depuis l'année dernière, elle a fait des feuilles. Donc moi je me suis dit vers le mois d'octobre, les feuilles ne fanent pas, donc moi je vais les couper. J'ai laissé donc l'oignon un petit peu avec une petite hauteur de comme on fait d'habitude. Donc et puis elle a pas fleuri, elle a refait des feuilles et cette année les feuilles sont encore bien vertes, l'oignon est bien ferme.
Mm-hmm.
Alors je l'avais un peu fatiguée cet été en la mettant au sombre, en la laissant un petit peu de côté et tout, comme on doit faire, je pense. Et puis là, elle a encore des superbes feuilles vertes et je pense qu'elle va pas encore fleurir.
Mmh. Alors, ce serait dû à quoi, le fait que cet amaryllis ne fleurisse pas, Philippe ?
Ah oui.
Alors, c'est dû à quoi ? C'est dû à deux choses. Donc, l'amaryllis, vous avez bien pigé qu'il fallait effectivement la laisser tranquille dans un coin pendant l'été. Oui. Mais il y a un truc qui vous a manqué à un moment donné, c'est qu'il faut nourrir le bulbe. Et que le bulbe, en même temps qu'il fleurit, il est déjà en train de préparer la floraison de l'année suivante. Donc, dès que, en ce moment-là, le bulbe qui est en fleur, alors, tant pis, même s'il ne fleurit pas cette année, vous lui donnez un engrais. Donc il y a des engrais spéciaux dont j'ai déjà parlé plusieurs fois à ce micro, qui sont bons pour toutes les plantes d'appartement, mais particulièrement justement les bulbes et les orchidées. Hein, c'est ces plantes qu'on ne sait pas très très bien comment faire refleurir. Donc c'est des engrais en deux éléments, un dans une bouteille verte qui contient beaucoup d'azote, un dans une bouteille jaune ou orange ou brune qui contient beaucoup de potasse.
Oui, mais j'en ai pour mes orchidées, parce que j'ai des orchidées depuis 18 ans et elles fleurissent vraiment, c'est l'admiration de toute la famille. Donc, je peux mettre la même chose.
Alors, vous mettez la même chose, sauf donc en ce moment, vous lui mettez la bouteille verte.
Hein,
donc, grosso modo, pendant 1, 2, 3, 4, pendant 3 mois, hein, vous mettez de bouteille verte à raison d'une fois tous les 15 jours. Hein, c'est pas la peine d'en mettre plus.
Hein,
vous arrosez, voilà. Et puis, au bout de ces 3 mois-là, vous repartez sur 3 mois avec la bouteille brune.
Oui.
Hein, donc là, normalement, on arrive à fin mai, début juin. Vous la mettez dehors, vous la laissez perdre ses feuilles. Surtout, ne coupez pas les feuilles. Les feuilles, il faut qu'elles se dessèchent, parce que toute la sève qui est contenue dans les feuilles, elle redescend dans le bulbe et elle est réutilisée par le bulbe pour faire sa fleur. Donc, faut pas les couper. Faut couper que quand elles sont desséchées. Donc, vous la laissez dehors, vous l'oubliez dans un coin. Faut faire attention aux limaces pour pas que ça soit elle qui coupe les feuilles. Hein. Et puis, vous la reprenez, donc, grosso modo, ça dépend à quelle période vous voulez avoir des fleurs. Mais on la reprend soit fin septembre, soit fin octobre. Et là, vous recommencez l'arrosage tout doucement, sans engrais, sans rien. Et normalement, elle part, elle fleurit. Et donc, dès qu'elle commence à démarrer, vous recommencez bouteille verte, 3 mois, bouteille brune, 3 mois, et ainsi de suite. Et quand vous aurez pris ce cycle-là, eh bien, vous aurez des fleurs. Alors, et l'intérêt, c'est que tous les ans, on a une orme florale de plus. C'est-à-dire que la première année, vous avez eu 2 fleurs. Eh bien, si tout va bien, l'année prochaine, comme elle sera reposée 2 ans, vous allez avoir peut-être directement 3 fleurs.
Ah.
Et puis après, tous les ans, on a une fleur de plus et ça devient des bouquets, mais absolument extraordinaires.
Non, c'est joli.
Elle était très belle déjà quand elle fleurissait. Hein.
C'est pour ça.
Bah, imaginez, au lieu d'avoir 2 fleurs, elle a 6 fleurs.
On s'amusait à la mesurer tous les jours parce qu'elle prenait je ne sais pas combien de centimètres par jour.
C'est de la folie. Comment ça démarre là
C'est extraordinaire.
En s'arrêtant, en regardant bien, je suis sûr on les voit pousser.
Monique, j'ai cru comprendre que vous étiez déjà la dame aux orchidées. On espère que vous allez être la dame aux amaryllis. C'est tout ce qu'on vous souhaite.
Oui, c'est ça, c'est pas la dame aux camélias.
Ce ne sera pas la dame aux camélias, voilà. Monique, on vous souhaite une très belle journée, un très bon dimanche.
À
bientôt.
Merci.
Merci, au revoir.
Merci de vos beaux conseils. Merci, mais à tous les deux.
Jacques est avec nous, Philippe. Accueillons Jacques. Bonjour.
Bonjour à tous les deux.
Alors, Philippe, excusez-moi. Jacques, je vous laisse d'abord poser votre question pour Philippe. On va mettre dans le sens.
Je voudrais savoir si on peut mettre des roses broyées dans le compost.
Ah, bonne question. Alors.
Oui, évidemment. Il n'y a aucun souci. Au contraire, c'est la ronce, c'est un bois qui est très léger, hein, qui fait des très bons humus, qui fait des humus de très bonne qualité, très très léger. Alors effectivement, pendant les premiers temps, on n'a pas intérêt à mettre les doigts dedans tant que les piquants ne sont pas encore décomposés. Mais dès que les épines sont décomposées, ça fait des très très bons terreaux. Donc oui, sans modération.
Vous n'hésitez pas. Eh ben voilà, Jacques, vous faites ça.
Merci
à vous. Bonne journée. Si comme Jacques ou comme Monique, vous avez des questions, 02 99 67 35 35, Philippe répond à toutes vos interrogations jusqu'à 10h.
Quand tout le monde dort tranquille dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Il feu au building, c'est toujours les honneurs. Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on qui se maquillent. Ça fait rire les passants, mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on est passe incognito, le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors préparez-vous pour la bagarre quand on arrive en ville. Quand la ville souterraine est plongée dans le noir, les gens qui s'y promènent ressortent sur des brancards. Ça vous paraît bizarre, c'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Quand on arrive en ville, nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux.
Daniel Balavoine sur France Bleu Armorique.
France Bleu. Une minute. Une minute pour l'environnement.
En Bretagne, des citoyens, des associations, des collectivités prennent des initiatives pour l'environnement. Je vous raconte chaque jour leurs actions, l'actualité, les bons gestes, les sites naturels protégés et les idées pour un avenir durable. La Minute Environnement, du lundi au vendredi à 9h45 et 14h45, le week-end à 7h45 et en podcast sur francebleu.fr.
La Minute Environnement sur France Bleu Armorique avec Bruno Gollin.
Ressources, climat, biodiversité, face à ces défis majeurs, comment se mettre en mouvement et rêver le monde de demain?
France Inter et La Massive vous proposent un cycle de 3 conférences sur le thème « Demain, notre planète ». Premier rendez-vous, le jeudi 21 novembre à 20h, sur le thème « Changer ».
En compagnie de mes invités, Hubert Reeves, Cynthia Fleury, Aurélien Barraud et Valérie Cabanès.
En direct dans vos salles de cinéma Méga CGR, La Mézières-Rennes. Informations et réservations sur franceinter.fr. France Inter, une radio de Radio France.
En partenariat avec La Massive.
Massif, essentiel pour moi.
Nous sommes un lien de confiance et de solidarité, un lien d'entraide qui permet à tous d'avoir accès à des parcours de soins sans reste à charge. Grâce à nos offres, nos services et nos partenaires de santé, nous sommes la mutuelle qui vous aide à vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio. Décidons ensemble de vivre mieux.
Groupe Aesio, numéro Orias 16 00 69 68. Plus d'informations sur aesio.fr.
France Bleu Armorique. France Bleu. Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
C'est au 02 99 67 35 35. C'est le numéro de téléphone qu'a composé Marie-Annick ce matin, qui est à Cornu. Bonjour Marie-Annick.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Voilà, alors, moi je me permets de vous appeler parce que nous venons de faire une rocaille.
D'accord.
Et nous avons planté un petit palmier, un yucca et une agave. Et alors là, on se pose la question, comment faire pour protéger l'agave par temps de gel?
Pour protéger durant cet hiver, c'est ça Marie-Annick, votre question. Alors Philippe.
Alors, l'agave, si c'est une agave bleue, normalement, sous...
Elle est verte et jaune.
Verte et jaune, donc c'est l'américaine, c'est la panachée, d'accord. Vous êtes, j'ai pas retenu la commune, vous êtes sur...
Cornu.
Oui, voilà.
Cornu,
oui.
D'accord, oui, donc au sud de Rennes, là. Alors, il faut faire très attention, parce que le gros problème, c'est que quand on protège une plante, très souvent, on a tendance à accumuler de l'humidité, et la plante, elle meurt de pourriture et pas de gel. Donc, si vous êtes en bord littoral bretonne, il n'y a pas de souci, on n'a même pas besoin de les protéger. Dès qu'on rentre un petit peu dans le centre Bretagne, les froids sont plus intenses l'hiver et donc il faut protéger l'agave. Sachant que naturellement, sans protection, elle peut résister à peu près jusqu'à moins 3, moins 4, sans trop de dégâts. Hein. Donc, c'est à partir de ces températures un peu plus froides qu'il faut commencer à vraiment protéger. Mais avant, protéger déjà avec de la paille. Commencer à mettre de la paille, mais pas trop serré, pas trop... Le tout, c'est que la protection que vous allez apporter en période de gel annoncée, et de préférence que la nuit, l'idéal serait de découvrir le jour quand le gel a terminé, hein, de manière à ce qu'elle puisse re-respirer. Il faut toujours que ça soit quelque chose de très léger, qui garde énormément d'air, parce que l'air ça isole bien et surtout ne garde pas d'humidité parce que derrière la pourriture attaquera. Donc c'est toute la difficulté réside là. En plus l'agave, si elle est bien démarrée, elle a tendance à bien se coller au sol, donc c'est pas très très facile de pouvoir bien la protéger, mais simplement de faire une petite cloche en fer à béton. Moi je suis très fer à béton. Ça coûte pas cher, c'est pratique, ça se coutore à la main avec des petits bouts de fil de fer, on les liaisonne les uns aux autres, donc voilà. Donc on fait une petite cloche, on met un voile de forçage autour qu'on tient bien, et à l'intérieur on met de la paille suffisamment dense pour que ça protège bien, mais suffisamment peu aéré pour que il y ait pas d'excès d'humidité. On garde ça toute la nuit, et dès que la gelée a terminé le matin, en général vers 10h, ça gèle plus, hop, on enlève la bulle, on laisse respirer la gave, et le soir à 4h30, 5h, on remet la cloche en place s'il y a du gel d'annoncer. Et en faisant ça, vous la protégerez sans problème, sachant quand même que quand elle a 3-4 ans, d'abord elle est grande, et donc ça oblige à faire des grandes structures, et que normalement, même si elle prend un coup, elle redémarrera sans problème.
Elle est résistante, cette agave, si j'ai bien compris, Philippe.
Oui,
quand
c'est assez costaud quand même.
Voilà.
Bon, on a des très très belles agaves en Bretagne.
C'est vrai que c'est assez joli, c'est marrant.
De la plantation, il ne fallait pas mettre du terreau de la terre méditerranéenne pour les palmiers et les yuccas.
Non, c'est pas la peine. En fait, il suffit simplement d'avoir un sol bien drainant, très drainant. Des sols pour les agaves, c'est des sols très minéraux. Faut pas avoir peur de mettre deux tiers de cailloux et un tiers de terre, hein, donc ou même un tiers de sable mélangé avec du compost. Il faut que ça soit très drainant et très minéral. Hein, donc même si vous n'avez mis que de la terre, vous pouvez très bien. Alors pour maintenant, évidemment, faut lui ficher la paix maintenant. Mais par contre, au mois d'avril, quand elle redémarrera l'année prochaine, de gratter très délicatement la terre que vous avez mise et la remplacer par des accumulations. Vous mettez des pierres plates et entre les pierres plates, vous mettez un tout petit peu un mélange à peu près 50-50 de sable et d'un petit peu de compost. Et d'une part, l'été, quand les pierres vont chauffer, eh bien, ça va chauffer la terre et donc ça va lui rappeler son Mexique natal parce que l'Americana est originaire du Mexique. Et puis d'autre part, c'est une plante qui n'a pas besoin de beaucoup à manger mais qui a besoin vraiment de minéralité. Donc il faut lui mettre du caillou. Il ne faut pas avoir peur.
Ah ben voilà, sur cette rocaille, a priori, normalement, il doit y avoir du caillou, je pense.
Voilà, une rocaille, normalement, c'est fait pour être un caillou.
je pense que je me prononce sans risque. Voilà donc, Marie-Annick, les quelques conseils qu'on a pu vous apporter ce matin. On vous souhaite un très bon dimanche. Nous avons Malou qui est avec nous. Bonjour Malou.
Bonjour.
Alors, vous avez des questions concernant un olivier. Expliquez-nous.
Oui, bonjour Léo, bonjour Philippe. Voilà, j'ai un olivier que ma fille m'a offert, dont il est en pot, mais je voulais savoir, il est toujours bien vert, il me donne des olives de temps en temps, mais je voulais savoir pour l'hiver, avec les gels qu'il y a eu, si je pouvais le laisser dehors ou s'il fallait le couvrir ou le rentrer.
Que faire avec cet olivier pour qu'il résiste à l'hiver? Alors Philippe...
Alors, il est en pot ou il est en...
Il est en pot.
Alors... normalement, en Bretagne, les gels sont rarement très forts. Donc, pour un hiver moyen breton, il suffit simplement de prendre le pot, de le reculer sur la terrasse pour le mettre le plus proche possible de la maison, du mur de la maison, pour que la chaleur, à chaque fois qu'il y a un petit... En général, quand il fait froid, il y a du soleil. Donc, le petit peu de soleil qu'il y a va chauffer le mur de la maison et va redistribuer cette chaleur, va rediffuser cette chaleur la nuit. Et donc, ça suffit à protéger l'olivier sur des hivers moyens. Après, s'il y a vraiment des gros gels annoncés, soit si vous pouvez le rentrer dans un garage ou dans un endroit hors gel, tant mieux. Soit il faut doubler la protection. Un olivier, ça commence à avoir très très mal à partir de moins 8 à peu près. Donc, c'est rare qu'on ait moins 8, ça arrive, mais c'est rare qu'on ait moins 8 en Bretagne.
Voilà.
D'accord. Mais donc, le mettre un sac plastique dessus le soir, c'est pas
Surtout pas un sac plastique. D'accord. Si vous mettez quelque chose dessus, vous mettez du voile non tissé qui sont très respirants, alors que les sacs plastiques ne sont pas respirants, ils arrivent à le faire pourrir au lieu de le protéger.
Mais oui, c'est des plantes, il faut que ça respire, on est bien d'accord.
Donc, si vraiment il fait très froid, dans le houppier de l'olivier, vous mettez de la paille ou des spaghettis de poli machin que j'aime pas beaucoup, mais bon, si on en a, autant les utiliser. Voilà, sinon la paille c'est quand même vachement mieux.
Et
dessus, vous mettez un voile non tissé.
Voilà, donc vous tentez cela, Malou?
Oui, et la paille, je la trouve où?
Chez les agriculteurs.
Tout simplement.
Il y a plein d'agriculteurs en Bretagne, vous savez.
Voilà. D'accord. Oui, bien sûr.
Faut pas hésiter à aller se renseigner dans ces cas-là.
Je vous remercie beaucoup. Il y a une chose aussi, j'ai raté la réponse pour les orchidées. Et moi, ils veulent pas tenir chez moi, les orchidées.
Alors, Philippe, rapidement, les orchidées, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour qu'ils tiennent bien?
Rapidement, l'endroit où les orchidées se plaisent, c'est une pièce où ils ont beaucoup de lumière, mais surtout pas de soleil direct, où la température varie entre 19 et 22 degrés, vaut mieux que ce soit 19 pour le portefeuille et la planète, où il y a une petite bulle d'humidité qui permet d'avoir un air autour de 55-65% d'humidité, et après il faut les baigner une fois par semaine l'été, une fois tous les 15 jours, 3 semaines l'hiver, et leur donner de l'engrais régulièrement avec donc des engrais à deux composants, mais ça on en reparlera.
Bien sûr.
Comme c'est qu'une question par personne,
c'est ça,
vite passer à l'autre.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Malou, on vous souhaite une très belle journée, en tout cas un très bon dimanche. Alain est en train de bouillir d'impatience pour poser sa question. Bonjour Alain.
Bonjour.
Alors Alain, vous avez une question concernant un citronnier. Ouais. Expliquez-nous.
Oui, j'ai un citronnier Guermeau, il est très beau et il a 3 ans, il ne donne aucun fruit. Quoi.
Ah, aucun fruit du tout, pas de citron depuis 4 ans.
Non, il est très beau, quoi. Il pousse tout le temps, il a des vignes, je les coupe des fois.
Mm-hmm. Alors, pourquoi il ne fait pas de fruits, a priori, Philippe?
Alors, à mon avis, c'est un problème de nutrition. La nutrition ne doit pas être adaptée. Il faut faire attention que les citronniers, pour bien fleurir, d'abord, il ne faut pas trop les nourrir. Il faut faire attention à ne pas mettre trop d'engrais. Les engrais, c'est une fois par mois, de mars à octobre. Et c'est des engrais, organiques, spéciaux pour agrumes. Il ne faut pas prendre un autre engrais. Il ne faut pas prendre un engrais plante verte ou un engrais plante fleurie. Ça ne marche pas. C'est vraiment des engrais spéciaux pour agrumes qui sont pauvres en azote et riches en potasse. Et là, ça tombe bien parce que la potasse, ça fait des fruits, alors que l'azote, ça fait des feuilles. Donc, dès qu'on commence à voir qu'on a trop de feuilles ou des très belles feuilles, on se dit « Oh là là, j'ai trop nourri ma plante. » Donc, comme elle est trop nourrie, elle n'est pas capable de provoquer son induction florale, donc de démarrer en fleurs puis en fruits. Donc dans ce cas-là, il faut absolument soit arrêter carrément l'engrais et dire pendant un mois ou deux, tu vas être au régime sec, ça va t'apprendre. Alors pas sec au niveau de l'eau, mais on met pas d'engrais dans l'eau. Et puis, ou alors vérifier, se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai mis comme engrais? Oh zut, c'est un engrais trop riche en azote, je change d'engrais et je passe un engrais plus riche en potasse. Et dans ces cas-là, normalement, le citronnier devrait comprendre le message et ça devrait l'inciter à partir. Mais la première chose que je ferais, moi, c'est déjà de le punir et de lui donner toujours à boire, ça il en a absolument besoin, et de ne rien lui mettre dans l'eau d'arrosage.
À l'eau et au pain sec, enfin même pas au pain sec, c'est vraiment juste à l'eau.
À l'eau sec.
À l'eau sec, voilà.
C'est dur à faire.
Voilà, Alain, les conseils ce matin.
Merci,
très belle journée, à bientôt. Au revoir. On va continuer de découvrir vos questions d'ici quelques minutes. Je vous rappelle que Philippe, notre jardinier, répond jusqu'à 10h.
Vous avez des questions?
Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et en attendant, voici le nouveau titre des Trois Cafés Gourmands à nous sur France Bleu Armorique.
À votre bon cœur, tout le monde, les gens, à votre bon temps, évidemment. Ce soir, vous pouvez compter sur nous. On sera en retard, mais après tout,
mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Si elles sont pas vos affaires, non, 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 nous aussi on a une vie. La la la, les filles, la bière
et les amis.
À votre bon cœur, tout le monde, les gens, à votre bon temps, bien évidemment. Venez avec nous, on va commencer, et c'est maintenant.
Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Wow, 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 ce ne sont pas vos affaires. Non, 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 nous aussi on a une vie. La, 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 les filles, la bière
et les amis.
Avec les Trois Cafés Gourmands, c'est que quelle que soit la chanson, on a toujours envie de chanter. À nous, à l'instant, sur France Bleu Armorique.
France Bleu.
Yawang, des milliers de danseurs, des centaines de sonneurs au Parc Expo de Rennes. La semaine prochaine, dans Microzone, le grand jeu de 11h, gagnez votre pack Yawang, le panier gourmand breton, le t-shirt officiel et bien sûr, deux entrées pour le plus grand festnos de Bretagne, samedi 23 novembre. Microzone Var France Bleu Armorique.
C'est à 11h avec Francis Letocard.
Chance va dans l'œil. Bonne chance.
Bonjour, c'est Lambert Wilson et c'est en tant que citoyen préoccupé par l'état de la planète que je vous parle aujourd'hui. Face aux enjeux environnementaux, il y a deux façons d'envisager l'avenir. Le fatalisme, après moi le déluge, ou la détermination qui pousse à agir. Avec Greenpeace, j'ai choisi la détermination. Et même lorsque nous ne serons plus de ce monde, il y a un geste simple et concret, un geste d'espoir. Faire un leg à Greenpeace, c'est agir au-delà du temps pour cette terre à qui nous devons tout. Pour en savoir plus, rendez-vous sur internet leg.greenpeace.fr.
Alors, Chantal Latsou, quel est le secret de votre bonne humeur?
Chez moi, c'est naturel, je suis parfait, je n'y peux rien.
C'est vrai?
Non, en vrai, quand j'ai un coup de mou, je vais dans ma véranda à Kenna et là, j'oublie tout. Au revoir la grisaille, ma véranda à Kenna, c'est mon oasis de bonheur, ma bulle de douceur. Mais ne le répétez pas, hein, on va me prendre pour une cinglée. Akena, la reine des vérandas et des pergolas.
France Bleu Armorique.
France Bleu.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et comme chaque dimanche, vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir intervenir, à vouloir poser vos questions ce matin. Comme Huguette, qui est à Plaintel. Bonjour Huguette.
Bonjour.
Alors Huguette,
bonjour au jardinier.
Expliquez-nous votre souci.
Et voilà, j'ai une question, pas la même que la dame tout à l'heure, mais c'est pour un anthurium avec de très très grosses feuilles et des fleurs. Il a au moins 5-6 ans. Il fleurissait énormément. Et là, je pense que mon fils l'a trop arrosé pendant nos vacances. Mm-hmm. Et donc, les feuilles jaunissent tout le tour, deviennent marron et les fleurs pareil. Mais elles poussent toujours en D'accord. feuilles et en fleurs. Mais le problème, c'est qu'elles jaunissent et qu'elles, ça craque après et puis elles sont moches, quoi. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Soit couper la plante, soit rempoter, je ne sais pas quoi faire. Ça dure quand même depuis cet été.
Que faire? Que faire? Alors, Philippe, voilà. Que faire avec cette plante?
Alors, le fait qu'il y ait encore des fleurs et que oui. ce soit les feuilles et les fleurs qui soient attaquées sur la bordure, moi, oui. ça me fait penser à une plante qui est trop à la lumière, qui a du soleil direct.
Elle et a toujours été à cet endroit-là.
Ouais,
elle a toujours été belle, sauf depuis cet été-là.
Il y a quelque chose qui a changé.
Oui, mon fils l'a trop arrosé pendant les vacances.
Je ne pense pas que ça soit ça, parce que l'arrosage, c'est les feuilles qui viennent toutes jaunes, entièrement jaunes. Alors que là, vous parlez d'attaque sur le bord... Hein. Vous parlez d'attaque sur le bord,
oui,
a priori.
Oui, pour commencer, mais après,
ouais,
mais
justement, c'est partout. C'est pour ça que je pense que c'est un excès de soleil. Alors, donc, du coup, cet été, il a fait très chaud. Et donc, il se peut très bien qu'elle ait pris un coup de soleil. Ça arrive, les plantes prennent des coups de soleil. Et ça peut même, pour certaines plantes, être mortel. Donc, je pense qu'elle a pris un coup de soleil et qu'elle a du mal à s'en remettre. Donc, moi, je pense que... alors, effectivement, il faut faire attention à l'arrosage. Vous avez tout à fait raison. Mais je pense que je mettrais un voile léger entre la fenêtre et la plante, et les feuilles les plus abîmées, celles qui sont vraiment toutes jaunes, vous les supprimez. Mmh. Sans problème. Les fleurs, éventuellement, si elles sont trop moches, ça vous les supprimez aussi. Et puis derrière, ça va redémarrer. En plus, l'anthurium, quasiment, il végète. Enfin, en tout cas, il est capable d'émettre des nouvelles feuilles et des nouvelles fleurs presque toute l'année. Donc, il n'y aura pas de souci. Mais franchement, je pense qu'il a dû prendre un coup de soleil cet été et depuis, il s'en met.
Il a un peu de mal. Il a un peu de mal à s'en remettre.
Alors après, il y a peut-être en plus le phénomène d'arrosage.
Oui.
Mais cette attaque sur la bordure, c'est très significatif.
C'est vraiment dû à ce soleil. Donc, faut le protéger un peu, comme vous disiez, Philippe. Mettre
un petit voile léger, ou alors le déplacer très légèrement sur le meuble. Des fois, à 20 cm, l'incidence de la lumière n'est pas du tout la même. Donc, faire attention à ça. Et puis, effectivement, faire très attention à l'arrosage. Les anthuriums sont des plantes de sous-bois, donc ils aiment la fraîcheur, mais n'aiment pas avoir les pieds qui baignent dans l'eau, ça, ils détestent ça, et ça les fait pourrir, ça. Notre auditrice a tout à fait raison là-dessus, il faut faire très très attention à ça, mais il faut faire aussi très attention à la lumière.
Il faudrait le dire à votre fils de faire attention à l'arrosage la prochaine fois.
C'est pas facile d'apprendre à arroser, c'est tout un apprentissage.
C'est tout un art, j'allais vous le dire. Huguette, on vous souhaite, en tout cas, un très bon...
C'est toutes les bêtises qu'on fait, en fait, qui permettent de progresser.
Exactement. Huguette, on vous souhaite un très bon dimanche, et puis à très bientôt sur France Bleu Armorique. Madeleine est à la Guerche de Bretagne avec nous ce matin. Bonjour Madeleine.
Bonjour Philippe Meunier.
Alors Madeleine, allez-y, posez votre question.
Oui, alors mon mari fait des endives et là il les a mises en terre et il a beaucoup de feuilles, tout un gros tas de feuilles. Il se demande s'il peut mettre ça dans le compost ou non.
Peut-on mettre...
Oui, évidemment, non seulement les feuilles, mais aussi les bouts de racines, parce que je suppose qu'il a rogné les racines pour mettre tout ça à la même longueur. Donc,
les racines aussi
souci. Bah oui, les racines aussi, évidemment. Par contre, il faut tourner le compost, parce que sinon, vous allez avoir des endives qui vont pousser dans le compost. Donc, il ne faut pas oublier de tourner son compost régulièrement. Il y a des petits outils très, très sympas, comme le brasse-compost, qui est un outil breton. Donc, faut en profiter. Ça se trouve dans les jardineries. Ça ressemble à un gros ressort, mais ce n'est pas un ressort, c'est un brasse-compost. Et on brasse le compost avec ça. C'est très facile à faire. Et ça permet de le faire donc plus souvent, parce que c'est facile à faire. Et puis, ça permettra de décomposer rapidement et les feuilles et les racines. Et il n'y aura pas de problème.
Bah voilà. Bravo. Vous n'hésitez pas, Madeleine.
Ça sert à ça, un compost, ça sert à tout ça.
Le poireau qui est malade, il n'y a pas grand-chose à faire.
Ça dépend ce qu'il a. Si c'est la teigne, on le coupe. Si c'est,
des petits vers.
Mais si c'est des petits vers partout dans le fût, là, c'est foutu.
Il n'y a plus grand-chose à faire.
C'est lamineuse. Tentez le coup de couper à ras du sol, vraiment à ras du sol. Mais il y a pas beaucoup de chance. Faire des marres, mais il y a une petite chance, donc tentez le coup.
Bon. Les couper au ras du sol.
Couper à ras du sol et faire attention pour le coup. Là aussi, on peut les mettre au compost, mais là aussi, il faut absolument brasser de son compost parce que si on le coupe et on coupe, on met au compost sans brasser, et donc sans mélanger tout le compost, et bien les petites bestioles qui sont brunes, là, qu'on voit dans le fût, qui sont en fait sont des larves des asticots, voilà, oui. J'ai trouvé le mot, sont des asticots, ils vont pouvoir finir leur cycle et se redéployer dès le printemps. Par contre, si pendant tout l'hiver, on les brasse régulièrement, en raison d'une fois tous les 10 jours, par exemple, mm-hmm. Et bien, ils vont être mélangés dans le compost et ils vont pourrir. Et donc, les asticots, ils seront oxy, il n'y en aura plus pour l'année prochaine. Et pour maintenant, si vous avez une fois une année, il faut pratiquer une rotation des cultures tous les ans, il ne faut jamais revenir avant 3 ans au même endroit. Et mm-hmm. Petit 2, il faut mettre ses poireaux sous un voile anti-insecte pour éviter à la mouche de venir pondre ses cochonneries de bestioles. Voilà, d'asticots.
Restez polis, s'il vous plaît.
Absolument, absolument. J'ai ma fourche calanguée.
Il n'y a pas de souci. Voilà donc, Madeleine, n'hésitez pas à pratiquer les conseils de Philippe dans ces cas-là. Très belle journée à vous. Nous avons Monique aussi qui est à nos côtés. Bonjour Monique.
Oui, bonjour à tous les deux.
Alors Monique.
J'ai des canards en pleine terre et je voulais savoir s'il fallait les rentrer tout simplement ou comment les protéger.
Que faire pour protéger peut-être les canards pour cet hiver? C'est joli en plus les canards. Oh là là, c'est beau.
Alors, oui, c'est alors dites-moi, rappelez-moi la commune parce que décidément je...
Ah, je ne l'ai pas précisé. La Mézière.
La Mézière, donc d'accord. On est donc plutôt sans... Mais bon, globalement, c'est pareil, un petit peu pareil que pour la gave et encore plus, on va dire, parce que les canards peuvent résister jusqu'à grosso modo moins 8, moins 10.
Là, oui, donc, parce que je les ai laissés un hiver et puis ils ont pour pousser. Ouais, alors l'année dernière, on les a rentrés. Mais on les a plantés un peu tard, je crois.
Si vous risquez d'avoir des petits coups de froid, alors après, ça dépend aussi des endroits où on se trouve. Hein, et des fois, il y a des vents coulis froids qui peuvent se balader dans les jardins. Et voilà, ça crée des microclimats pas forcément très intéressants, un peu trop froids. Dans ce cas-là, s'il y a un risque, il vaut mieux les arracher, les stocker dans un lieu sec et frais et hors gel, par contre. Et puis, effectivement, les replanter. Alors, la plantation du canard, grosso modo, c'est aux alentours entre 15 mars et 15 avril suivant les années. Alors ça, c'est une solution. Vous avez une autre solution qui consiste à couper les feuilles qui sont fanées, maintenant quasiment presque toutes fanées, les couper les feuilles et bien pailler. Hein, donc toujours pareil, là, de la bonne paille de céréales et puis ça en général ça protège pas mal mais si vous avez le courage l'idéal c'est quand même de les arracher, comme ça vous pouvez les trier et ne récupérer et replanter que les plus beaux.
Voilà Monique.
D'accord, les feuilles dessus ça c'est pas la peine, enfin les feuilles des arbres
Les feuilles mortes, si, ça peut marcher, mais il ne faut pas qu'elles soient trop colmatées. Il faut faire attention à ce qu'elles ne se colmatent pas trop. Donc, l'idéal, c'est de mettre des feuilles dures, comme des feuilles de hêtre, des feuilles de platane. Qu'est-ce qu'il y a encore des feuilles de plaques miniers, des feuilles de. Voilà, des feuilles assez dures. Pas mettre des feuilles de châtaignier qui ont tendance à s'agglomérer, par exemple. Et qui, donc, vont mettre trop d'humidité. Et s'il y a un coup de froid, ça risque de faire geler, pas geler, de faire pourrir vos tubercules de canard.
Voilà, Monique, vous appliquez les conseils que vous a donné Philippe ce matin, et puis vous n'hésitez pas peut-être à revenir pour nous dire bien comment ça s'est passé, s'ils ont bien résisté cet hiver. En tout cas, on vous souhaite une très belle journée à la Mézière. Philippe, dans quelques minutes, on va accueillir nos trois derniers auditeurs avec leurs questions.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et en attendant, voici le duo Ed Sheeran et Justin Bieber, I Don't Care, sur France Bleu Armorique. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. I'm wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. You know I love you, did I ever tell you, you make it better like that. Don't think I fit in at this party, everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel maybe I am somebody. I can deal with the bad nights.
We at a party we don't wanna be at. Turn the top, but we can't hear ourselves. Pictureless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy, cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. Like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, cause I don't care.
Justin Bieber, I Don't Care sur France Bleu Armorique.
France Bleu présente Le Grand Bleu en ciné-concert, le film culte de Luc Besson pour la toute première fois en tournée. Le Grand Bleu. Pour célébrer les 30 ans du film, le compositeur Éric Serra et ses musiciens interprètent sur scène la bande originale pendant la projection. Une expérience immersive exceptionnelle. Le Grand Bleu en ciné-concert, du 4 au 31 mars 2020, en tournée dans toute la France et dimanche 22 mars à Paris, au Palais des Congrès. Une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
La paire.
Ah, le bruit de la pluie qui picore votre double vitrage. Avec votre nouvelle fenêtre, vous voilà armé d'un véritable bouclier thermique. Les éléments se déchaînent, mais blottis dans la chaleur de votre foyer, vous n'en appréciez que mieux l'offre La Paire. Jusqu'à moins 25% sur une sélection de fenêtres sur mesure jusqu'au 25 novembre. Ah oui, il y en a qui se mouillent un peu.
La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
Conditions sur lapaire.fr.
France Bleu Armorique. France Bleu. Jusqu'à 10h, Philippe Munier, notre expert jardin, répond à vos questions.
Et encore pendant quelques petites minutes, on parle jardin avec Philippe qui est là pour répondre à vos interrogations, comme Liliane qui est avec nous ce matin. Bonjour Liliane.
Oui, bonjour à tous. Alors, j'aurais aimé savoir si je fais bien de mettre toutes les fleurs fanées, dahlias, tout ce qu'il y avait dans le jardin sur un terrain où j'ai arraché les pommes de terre et où l'année prochaine je voudrais mettre des haricots verts.
Est-ce une bonne idée de mettre toutes ces fleurs fanées ou en tout cas toutes ces branches et ces feuilles sur ce terrain, Philippe ?
Alors, malheureusement, non. Ça aurait été pour mettre, je sais pas, du maïs, des dahlias, enfin des plantes gourmandes, je vous aurais dit oui, c'est super. Le problème, c'est que les haricots verts sont des plantes peu gourmandes. Ce sont des plantes qui savent, toutes seules comme des grandes, aller récupérer l'azote dans l'air. Donc, comme elles savent faire ça, elles n'ont pas besoin d'azote dans le sol. Et quand vous mettez tous ces déchets en compostage, en fait, ce qu'on appelle le compostage horizontal, vous enrichissez le sol, entre autres, autres, en tout un tas de choses, mais entre autres en azote. Et donc cet azote-là, les haricots verts, ils ne sauront pas s'en occuper. Ils seront, et ça va perturber leur fonctionnement et ils seront malades. Ils auront la maladie de la graisse, ils auront plusieurs maladies, etc. Ils auront des pucerons et tout un tas de trucs comme ça. Donc quand on fait du haricot vert, c'est toujours sur un sol qui n'a pas été amendé, donc enrichi l'année précédente, de manière à ce qu'il puisse se développer correctement. On a besoin de mettre un petit peu de potasse, mais la potasse, en général, les stocks sont à peu près corrects et réguliers. Donc, il faut éviter l'azote. Donc, si vous avez commencé à le faire et que vous pouvez le basculer de place pour le mettre à un endroit où au contraire vous allez faire plutôt des légumes gourmands, bah faites-le. Sinon, il faudra faire les haricots verts ailleurs.
Voilà. Bon, écoutez, Liliane, vous appliquez ce qu'a dit Philippe et puis vous n'hésitez pas à revenir nous voir si jamais vous avez d'autres interrogations dans ces cas-là un autre dimanche. Nous avons également Nadine qui est avec nous ce matin, Philippe. Bonjour Nadine.
Oui, bonjour monsieur.
Alors Nadine, je vous laisse poser votre question rapidement.
Alors, j'avais une question sur le citronnier. On nous en a offert un donc en pot qui a une trentaine de centimètres. Est-ce qu'on peut le remettre en pleine terre? C'est peut-être pas la saison. Et si oui, à quelle période on peut le mettre?
Remettre, replanter ce citronnier. À quel moment, Philippe, peut-on faire ça?
Alors, faut faire très attention quand on plante une agrume en pleine terre en Bretagne à plusieurs choses. La première chose, c'est l'âge de l'agrume, quelle qu'elle soit. Donc, il faut que ce soit déjà un plant qui est au minimum 4-5 ans pour être bien costaud. Donc, ça, c'est obligatoire. Il faut vraiment que ce soit un plant qui soit bien développé, donc qui soit déjà dans un pot d'une bonne contenance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'endroit où on va le développer, où on va le transplanter, pardon, où il va se développer, faut que ce soit un endroit qui soit bien orienté, donc plein soleil, protégé des vents les plus froids, donc vent de nord-nordé et éventuellement, bon, la pluie, ça ne gêne pas trop sauf quand elle est froide, mais bon, à la limite, si c'est ouvert à l'ouest, c'est moins gênant, mais bien protégé du nord et de l'est. Et puis, faire attention, les agrumes, de manière générale, ont besoin d'avoir en permanence un sol frais, donc il ne faut pas mettre ça dans des sols trop pauvres, trop drainants, ou alors il faut surveiller l'irrigation. Et par contre, ils n'aiment pas baigner dans l'eau, donc il ne faut surtout pas que ce soit dans un creux, il vaut mieux que ce soit sur un terrain légèrement en pente pour que les excès d'eau puissent s'écouler de manière à ce que les racines ne baignent pas dans l'eau pendant l'hiver parce que ça les tue carrément. Donc si on a fait attention à tout ça, on peut le mettre en fait en pleine terre maintenant. C'est d'accord. Pas un mauvais moment. Moi, je personnellement, si vous avez de quoi l'accueillir à l'intérieur pendant tout l'hiver, il vaut mieux le garder et le planter qu'au mois d'avril. Mais si vous n'avez pas une bonne véranda bien lumineuse, qui n'est pas chauffée, mais qui ne risque pas de geler l'hiver, eh bien, vaut mieux le mettre en pleine terre, il souffrira moins.
Eh ben voilà, Nadine. Ben vous n'hésitez pas à faire ce qu'a dit Philippe. Et puis, vous nous redites, vous n'hésitez pas à revenir nous redire eh bien, comment ça s'est passé. On vous souhaite un très bon dimanche. À très bientôt. On va terminer rapidement avec Eliane. Bonjour Eliane.
Bonjour les garçons.
Eliane, je vous laisse poser votre question très rapidement à Philippe.
Oui, alors j'ai un clivia qui est devenu énorme. C'est ma voisine qui me l'avait donné. Et je ne mets pas d'engrais, rien. Il faisait toujours deux belles fleurs. Et là, il y a tellement, tellement de feuilles que la fleur n'a plus où passer. Ouais. J'ai été obligée d'attacher les feuilles avec des épingles à linge. Et je voudrais savoir comment la soulager, enfin m'enlever quelques feuilles. Le tronc lui-même est sorti de au moins 10 cm du pot. Et je ne sais pas quoi faire. Je sais que ma voisine, elle laisse sa plante, mais elle la laisse tellement qu'il n'y a plus qu'une dizaine de feuilles. Je ne veux pas en arriver là non plus. Moi,
je comprends, vous avez envie d'avoir cette fleur qui apparaisse quand même. Alors, Philippe, que faire?
Alors, il faut faire attention déjà sur les clivias, à bien respecter leur cycle. C'est toujours pareil, je rappelle que les clivias sont des plantes exotiques, ce sont des plantes tropicales, ce sont des plantes originaires d'Afrique du Sud. Elles poussent en sous-bois, dans les forêts, un petit peu comme les jacinthes chez nous, mais voilà, ce sont sont donc des africaines, des tropicales, donc elles ont besoin de deux saisons. Une saison où on leur donne bien à boire, bien à manger et bien de la chaleur, et puis une saison où on les laisse un petit peu, on les oublie un petit peu, mais pas trop quand même. Hein. Donc dans un endroit où, donc minimum de chaleur, minimum de d'arrosage, de manière à ce qu'elle se repose. Et c'est ce repos qui va provoquer la mise à fleur. Donc plus une plante fait des feuilles, plus elle a été en période humide et pas en période sèche. Il ne faut pas oublier vraiment quasiment de mai à octobre, un petit peu comme les amaryllis tout à l'heure, à les mettre dans un coin du jardin ou dans un coin, pas forcément du jardin, mais peut-être une petite terrasse au nord, à les sortir, je dis bien au nord, hein, parce que c'est une plante d'ombre, et de les laisser là, de ne pas arroser ou arroser une fois par mois un tout petit peu, vraiment pour qu'elles soient en situation de période sèche. Et puis, dès qu'on les rentre à partir du mois de septembre, on recommence à leur donner à boire, on leur met un petit peu d'engrais organique, plante à fleurs, et puis on espère avoir une floraison entre décembre et avril, grosso modo, la floraison, c'est à peu près ça. Et si on fait bien attention à ça, normalement, il n'y a pas de souci. Donc, s'il y a trop de feuilles, j'ai déjà peur qu'elle ait eu trop à manger cet été.
Ouais.
Et donc, il y aura moins de fleurs et il y aura trop de feuilles.
Voilà.
Et du coup, on peut très bien, mais ça, c'est à la fin du cycle prochain, donc à la fin au mois d'octobre l'année prochaine, au moment de rentrer, vous pouvez éventuellement enlever quelques feuilles quelques-unes. Pas la mettre à poil.
Oui, quand même non plus.
Enlever quelques feuilles pour dégarnir un petit peu la plante.
Voilà, donc Eliane, la réponse de Philippe ce matin. On vous souhaite un très bon dimanche et puis à très bientôt.